Si vous êtes Montréalais, il y a de grandes chances que vous ayez déjà pris un taxi. On sait l'industrie du taxi, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, encore moins depuis l'arrivée des Uber et autres plateformes qui permettent à tout un chacun de devenir chauffeur de taxi, entre guillemets. Et il y a le professeur Jean-Philippe Warren du département de sociologie et d'anthropologie à l'Université de Concordia qui a plongé dans le monde du taxi et qui en est ressorti avec un ouvrage, ma foi, fort touffu, très intéressant, qui s'intitule « L'histoire du taxi à Montréal ». Il est au bout du fil. Professeur Warren, bonsoir.
Bonsoir.
Pourquoi plonger dans le monde du taxi?
Plonger dans le monde du taxi, parce que d'abord, c'est un objet qui est méconnu, même si elle fait partie de notre quotidien. Tout le monde qui nous écoute a au moins pris une fois le taxi. Tout le monde a vu un taxi, probablement aujourd'hui, ou du moins cette semaine, s'est promené dans les rues. Et puis, en même temps, c'est un objet qui est anonyme, on n'y pense presque pas, il passe inaperçu. Et donc, c'est un objet qui, à la fois, est très proche de nous, puis en même temps, très lointain par notre méconnaissance du milieu. Je me suis dit, ben, ce serait peut-être le temps qu'on s'y intéresse. Je me suis intéressé avant l'arrivée d'Uber, mais évidemment, depuis l'arrivée d'Uber, je pense que le sujet est encore plus sensible et d'actualité.
Professeur Warren, vous avez remonté, vous faites vraiment l'histoire, vous remontez à la fin du 19e siècle, vous parlez des récents développements avec Uber, etc. Qu'est-ce qui n'a pas changé dans la condition des chauffeurs de taxi?
Ce qui n'a pas changé, c'est que ça va mal dans l'industrie du taxi.
Ça, ils disent toujours ça, les chauffeurs.
Ça, c'est récurrent. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de périodes heureuses dans l'histoire du taxi. Les années, on pourrait dire les quelques années là, au début du 21e siècle, dont notre siècle, ont été un peu plus profitables pour les chauffeurs de taxi et ils arrivaient à s'en tirer mieux. D'ailleurs, ce qui explique d'ailleurs la flambée prodigieuse des prix des permis d'exploitation de taxi là, qui ont atteint des fois, là, qui ont frôlé les 200 000 $. Et donc, mais à part cette période-là, tout le reste du temps, ça a été des années de misère. On disait d'ailleurs que le métier de chauffeur de taxi, c'était un métier de crève-la-faim.
Vous dites des chauffeurs de taxi que ce sont des cow-boys. Pourquoi ce terme-là, cow-boy?
Ben, c'est une affaire qui est un peu curieuse. Le métier de taxi, c'est un métier qui est sous tension. Donc, d'un côté, ils se sentent asservis, ils se sentent exploités. Ils arrivent difficilement à rejoindre les deux bouts. Ils sont constamment pressurés par les pouvoirs publics, par les services policiers, par les compagnies d'assurance, par les compagnies qui leur vendent les voitures, par les compagnies pétrolières qui leur vendent de l'essence. Mais en même temps, ils ont le sentiment, une fois qu'ils sont derrière le volant, assis sur leur siège, d'être libres de toute contrainte. Ils n'ont pas de patron, ils fixent eux-mêmes leur horaire, et ils dominent cette jungle qu'ils appellent Montréal, donc parce qu'on appelle vraiment la jungle du taxi, cette jungle qui s'appelle Montréal. Et dans cette jungle de Montréal, ils font leur propre loi, d'où cette idée du chauffeur de taxi comme cow-boy du bitume. D'ailleurs, ça a donné des scènes célèbres d'un film de Scorsese en 1976 qui s'appelle Taxi Driver, que peut-être certains qui nous écoutent ont déjà vu, puis une scène où Robert De Niro, donc il joue le personnage principal, personnifie un chauffeur de taxi, il se regarde dans le miroir et il joue à être un cow-boy.
Et on est avec professeur Jean-Philippe Warren du département de sociologie et anthropologie à l'Université de Concordia qui nous arrive avec un livre sur l'histoire du taxi à Montréal. Est-ce qu'il y a déjà eu une période d'âge d'or du taxi où ça pouvait être payant et pas trop éreintant?
Ben, disons, il y a une période, un peu plus heureuse de cette longue histoire du taxi là, qui commence en 1910 puis qui vient jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les premières décennies du 21e siècle. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au tout début, donc on parle des années 1910 à 1920, il y avait très peu d'automobiles à Montréal. Moi, je fais l'histoire du taxi à Montréal, il y avait très peu d'automobiles à Montréal parce que c'était considéré comme un bien de luxe et les chauffeurs de taxi conduisaient donc des voitures qui étaient un signe de prestige, de modernité, de progrès, et ils étaient habillés avec un costume. À l'époque, c'était obligatoire, ils devaient porter le costume, l'habit, le veston, avec la cravate et la casquette, et donc ils étaient vus à Montréal comme des gens avec un certain statut. Et ça, c'était la belle époque de ce qu'on appelait les taxis jaunes, parce que la grande compagnie qui dominait alors l'industrie à Montréal, c'était une compagnie qui ressemblait beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui à New York, par exemple, qui arborait comme couleur pour ses taxis des taxis jaunes. La compagnie s'appelait d'ailleurs la compagnie Taxis Jaunes.
Vous rappelez que le métier de chauffeur de taxi, professeur Warren, a déjà été très dangereux. Écoutez, moi j'ai été, je le savais, là, j'avais le père d'un de mes amis quand j'étais jeune, dans les années 80, qui était chauffeur de taxi à Montréal. Il nous racontait ses soirées. Puis quand vous parlez de jungle puis de cow-boy, là, je peux voir exactement ce dont vous parlez. Mais quand même, 20 fois plus de chances d'être victimisé à une époque que le reste de la population.
Dans les années 80, ça a été absolument épouvantable. Plus, évidemment, horrible aux États-Unis, où là, les crimes contre les chauffeurs de taxi ont explosé. Mais même à Montréal, qui est une ville un peu plus paisible qu'ailleurs en Amérique du Nord, dans les grandes métropoles, même à Montréal, on a vu des statistiques affolantes. Les taux d'homicide des chauffeurs de taxi étaient seulement en deuxième par rapport aux prostituées. Donc, c'était le métier, à part les prostituées, le métier le plus dangereux que l'on pouvait exercer à l'époque. Les chauffeurs de taxi étaient évidemment des fois assassinés, mais ça allait être battu. Souvent, les chauffeurs de taxi qui devaient remettre l'argent à leurs clients qui avaient décidé de les vandaliser, c'était extrêmement pénible et difficile. Et c'est pourquoi on a essayé toutes sortes de mesures pour permettre de protéger les chauffeurs de taxi, mais ça n'a jamais suffi. Ils ont toujours été à risque dans leur profession.
Beaucoup d'immigrants débarquent ici au pays et devenaient, là, peut-être que ça a changé avec Uber, mais devenaient chauffeurs de taxi. Parlez-nous du lien entre le taxi et l'immigration.
Alors, le lien est entre les migrants et le métier de chauffeur de taxi. Quand je dis migrants, j'inclus pas mal de monde, parce que les premiers chauffeurs de taxi, ça a été des migrants des campagnes. On imagine que les migrants doivent toujours venir de pays étrangers, mais les premiers migrants qui sont arrivés à Montréal venaient de Gaspésie, venaient d'Abitibi, venaient du lac Saint-Jean. Ils n'avaient pas un sou en poche, ils n'avaient pas de diplôme, pas de qualification. Ils arrivaient donc dans la grande métropole, ils cherchaient quelque chose à faire qui était moindrement payant, et on leur disait, ben, va conduire un taxi, puisque il n'y a pas besoin d'étapes préalables avant de se retrouver derrière le volant. Et donc, les premiers chauffeurs de taxi ont été les Canadiens français, à tel point qu'en 1940, presque la moitié de tous les chauffeurs de taxi du Canada, coast to coast, d'une marée à l'autre, comme on dit, étaient des Canadiens français. Même dans les autres provinces. C'était la moitié de tous les chauffeurs de taxi du Canada au complet, ou presque, étaient des Canadiens français. Et tranquillement, ils ont été remplacés par des gens venus d'ailleurs. Dans l'après-guerre, c'était la grande vague, entre autres, hongroise et italienne. Et puis ensuite, dans les années 80, c'était l'arrivée des Québécois d'origine haïtienne. Et puis, plus récemment, dans les années 90 et début 2000, beaucoup de gens venus des pays arabes. L'immigration est en particulière à Montréal. Ça a teinté aussi l'origine ethnique de ceux qui conduisent une voiture de taxi. On n'a pas le même profil démographique à Montréal que, par exemple, à Toronto ou à Vancouver.
Dites-moi, mais qu'est-ce qui fait que, dans le Québec moderne, dans les 40-50 dernières années, qu'est-ce qui a fait que le taxi a attiré autant d'immigrants? Pourquoi l'immigrant, arrivant d'Haïti, arrivant de pays arabes, par exemple, choisissait de faire du taxi plutôt que d'aller travailler dans d'autres domaines?
Bien, je vais dire deux choses. La première chose, c'est que beaucoup d'immigrants ressentent le fait qu'avec leur diplôme, avec leur expérience de travail, ils n'arrivent pas à être reconnus dans les métiers qu'ils cherchent à intégrer. Ils se font constamment marginaliser à cause de leur origine ethnique ou de leur profil racialisé. Et donc, ils se décident d'aller vers le taxi parce qu'ils se disent, là, au moins, j'ai pas de patron pour, je m'excuse l'expression, mais m'écœurer, et je vais pouvoir être libre de mes allées et venues. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, faut pas l'oublier, c'est que pendant à peu près toute l'histoire de l'industrie du taxi à Montréal, cette profession-là était considérée, l'expression était utilisée comme la poubelle de l'emploi. C'était les gens les plus mal pris. C'était les gens qui étaient les plus démunis, qui étaient obligés de se retourner vers un métier qui payait peu, un métier qui était extrêmement pénible et difficile. Il faut comprendre qu'un chauffeur de taxi peut faire jusqu'à 70 heures, 80 heures par semaine pour un salaire qui est famélique. Et donc, les seuls qui étaient assez désespérés pour entrer dans la profession, c'était ceux qui étaient les plus rejetés par la société. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans les années 80, le métier était envahi par les Québécois d'origine haïtienne. C'est pas parce que ces gens-là se destinaient à devenir chauffeurs de taxi, c'est parce que le chômage avait explosé à Montréal, il n'y avait plus de débouchés professionnels pour grand monde, et encore moins pour les gens qui étaient les plus rejetés de la société québécoise.
Au début des années 2000, à la moitié des années 2000, pour le Journal de Montréal, j'avais infiltré, appelons ça comme ça, le monde du taxi. J'avais fait mon cours, etc. Et j'étais devenu chauffeur. Puis ce que j'avais constaté, dites-moi, là, si ce que j'ai constaté à hauteur d'homme, ça se vérifie là, dans vos travaux, professeur Warren, c'est un tue-monde, le taxi. mais c'est une façon, en se tuant à l'ouvrage aussi, de se constituer une sorte de petit pécule. Parce que si on a un permis de taxi à l'époque, ben après 10 ans, 15 ans de travail, ben on est assis sur une somme là, qui est à peu près, je sais pas moi, 200 000 $ le permis, puis ça a une valeur.
Absolument, vous avez raison, mais pour une période très précise de l'histoire du taxi, parce que de 1952, au moment où on gèle le nombre de permis de taxi d'exploitation à Montréal, jusqu'à 1985, où on décide de racheter des permis de taxi qui étaient considérés comme excédentaires. Hein. De 1952 à 1985, la valeur d'un permis d'exploitation à Montréal diminue en argent constant. Donc, le permis que vous aviez acheté en 1952 vaut moins cher en 1985. Mais à partir de 1985, tout change. Et là, c'est l'explosion du prix des permis jusqu'à l'arrivée, évidemment, d'Uber. Pour toutes sortes de facteurs, il y a évidemment la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale. Il y a l'arrivée de gens qui sont beaucoup plus professionnels dans le milieu du taxi puis qui débarquent donc à Montréal avec un certain pécule. Mais il y a aussi le fait qu'on a racheté des permis et que ça devient plus payant qu'avant de faire du taxi. Le bureau du taxi de Montréal, d'ailleurs, fait un travail admirable dans les années 90 pour professionnaliser le milieu, puis arriver à lui donner de nouveaux débouchés. C'est l'explosion, par exemple, du transport pour les personnes à mobilité réduite, ce qu'on appelle le transport adapté, que vont faire le taxi. C'est des millions et des millions de dollars que profitent les chauffeurs de taxi. L'autre variable qui est extrêmement importante, dans n'importe quelle industrie du taxi, partout en Amérique du Nord, c'est l'aéroport. Hein. L'aéroport, c'est à peu près 15% du chiffre d'affaires de l'industrie du taxi un peu partout. Et puis, les vols à Dorval, une fois qu'on a fermé Mirabel, ben, monte en flèche et les chauffeurs de taxi sont les premiers à en profiter. Donc, évidemment, cette période-là que vous avez connue lorsque vous avez décidé d'infiltrer le milieu du taxi, cette période-là était une période quand même particulière par rapport à l'ensemble de l'histoire qui commence en 1910.
Je me souviens que quand j'en faisais, là, l'Eldorado du chauffeur de taxi, c'était justement un voyage à Dorval. OK, parlez-nous, début des années 80, là, il y a des tensions épouvantables entre les chauffeurs haïtiens et plusieurs chauffeurs et acteurs de l'industrie qui sont blancs.
C'est une page absolument triste, vraiment douloureuse de l'histoire du taxi à Montréal. Les chauffeurs noirs à Montréal étaient pas plus qu'une douzaine à la fin des années 60. Ils sont 1500 ou à peu près au début des années 80. Donc, il y a vraiment l'arrivée massive de chauffeurs noirs et tout particulièrement la très vaste majorité d'entre eux viennent d'Haïti. Donc, c'est l'arrivée par vagues successives d'immigrants d'origine haïtienne et ils ne trouvant pas plus de débouchés dans les manufactures à Montréal, parce que les manufactures à Montréal sont en train de fermer les unes après les autres, ils n'ont d'autre choix que de se retourner vers l'industrie du taxi. Et là, ils font face à un racisme et d'une virulence qui est difficile à imaginer.
Donc, un racisme qui ne s'cache même pas, là.
Ah non, moi, j'ai des témoignages donc, qui sont publiés dans les journaux ou même qui sont dans des documentaires. On peut voir le visage des gens en train d'exprimer des paroles extrêmement dures contre les chauffeurs d'origine haïtienne.
Je m'excuse de vous interrompre, mais parlez-nous, professeur Warren, du code PN.
Ah oui, donc le PN, hein, PN, c'est pas de noir. Donc, lorsqu'ils avaient un client ou une cliente qui appelait à la centrale d'appel, donc l'association de services pour avoir un chauffeur, beaucoup de ces gens-là qui appelaient à la centrale de service demandaient à ce qu'un taxi arrive conduit par une personne blanche. Donc, on indiquait, il y avait une mention spéciale, PN, pour dire à cette personne-là, il faut envoyer un chauffeur blanc et non pas un chauffeur noir. Pas de noir, PN. Donc, c'était les clients et les clientes. Vous aviez les autres chauffeurs de taxi, qui étaient des chauffeurs de taxi blancs, qui se servaient de toutes sortes de tactiques épouvantables pour chasser les chauffeurs noirs des stations d'attente, donc des postes d'attente pour les taxis. Mais vous aviez aussi des policiers qui ne se gênaient pas pour exprimer des préjugés absolument révoltants devant la caméra ou à des journalistes qui enquêtaient sur la situation, à tel point qu'en 1984, c'est la première fois à ma connaissance que dans l'histoire de Montréal, la Commission des droits de la personne va utiliser un concept qui aujourd'hui, dont on parle beaucoup dans les débats, le concept de racisme systémique. On s'imagine que le concept de racisme systémique, c'est un concept nouveau, mais non, déjà en 1984, pour décrire ce qui se passait à Montréal, on était obligé de faire appel à ce concept pour décrire la situation extrêmement tendue et disons-le, le scandaleuse qui faisait s'opposer les Blancs et les Noirs dans l'industrie du taxi.
Merci beaucoup, professeur Warren.
Merci à vous.